France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France est consacrée ce soir à l'engouement des Français pour les vide-greniers cette saison. Et on verra que ça ne date pas d'hier. 50 000 vide-greniers, foires, brocantes sont organisés chaque année à la campagne comme en ville. Un marché de la seconde main qui attire 30% de la population française. On y croise tout à la fois des curieux nostalgiques, mais aussi une France de la sobriété écologique à contre-courant de l'amazonisation de la société. Pardon pour ce néologisme. On y croise enfin une France de la débrouille quand les fins de mois sont difficiles. Et bonsoir Yaël Gauz.
Bonsoir Éric, bonsoir à tous.
Avec votre prisme politique, vous nous direz tout à l'heure comment des politiques font parfois dans les vide-greniers un peu de pêche aux voix.
Oui, la foire à tout, capsule temporelle, bulle nostalgique de plus en plus investie par les politiques, nouvel endroit à la mode pour députés à reconnecter.
À tout à l'heure, Yaël, les vide-greniers avec aussi leur lot de visiteurs déçus de n'avoir trouvé que des vêtements pour bébés ou des jouets achetés. Dans l'année, le vide-grenier serait-il devenu une simple braderie pour objets du quotidien? Peut-on encore y trouver des pépites? Eh bien, je poserai la question à nos invités. On en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, bonsoir Brigitte Rayton.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'île de Ré, dans le village de la Couarde-sur-Mer. Vous êtes trésorière de l'association La Couarde en fête, avec un vide-grenier prévu demain, je crois.
Alors, nous, il est prévu le 30 mai.
Le 30 mai. Les voilà. Brocantes, les vide-greniers, ça donne aussi un air de fête au village.
Oui, oui, oui. Ça donne un air de fête. Tout le monde... Si le soleil est au rendez-vous, mais dans l'île de Ré, il fait toujours beau, c'est vrai que ça donne un heure de fête. Tout le monde est content, tout le monde se retrouve et c'est vraiment très sympathique.
Est-ce que ce vide-grenier est la manifestation la plus populaire à la Couarde? Est-ce que c'est celle qui attire le plus de monde dans l'année?
Ça attire beaucoup de monde. On organise nos trois vide-greniers. Ça attire beaucoup de monde, mais la plus populaire... Après, toutes les fêtes sont très bien aussi, mais il faut reconnaître que le vide-grenier attire beaucoup de monde.
Et combien de chineurs attendez-vous cette année? Pour combien d'exposants d'ailleurs sur l'île de Ré?
Alors, exposants, on en a 150 environ, entre 150 et 200 à chaque fois. Voilà, c'est mes deux compères qui gèrent ça, Gérard et Jacques, qui organisent ces trois manifestations. Donc, après les visiteurs, il y en a beaucoup, beaucoup, parce que c'est vrai que l'île de Ré à vélo, donc tout le monde passe dans les rues pour regarder, admirer, acheter. Voilà, on passe vraiment un très bon moment.
Mais qui vient chiner? Qui seront les visiteurs à la Couarde-sur-Mer sur l'île de Ré? Ce sont des gens qui viennent de loin parfois?
Ben, ce sont les vacanciers déjà, qui sont en vacances forcément sur l'île. Les résidents aussi, qui trouvent toujours leur bonheur. Et puis après, vous avez des Rochelais aussi qui se déplacent pour voir les vide-greniers. Même si on a des fois sur un même week-end trois vide-greniers, les gens peuvent faire les trois vide-greniers, ils sont très amoureux. Donc voilà, l'île de Ré à vélo et hop, ça roule pour les vide-greniers.
On s'arrête à un vide-grenier. Ouais. Les exposants sont forcément des habitants de l'île?
Les exposants sont des habitants, ils sont aussi des Rochelais, ils sont du département. Il y en a qui ne font, des professionnels qui ne font que les vide-greniers aussi. Hein. Donc voilà, et puis après, c'est forcé qu'à la Couarde, vous avez beaucoup de Couardais qui font les vide-greniers, bien sûr.
Et qu'est-ce que l'on trouve le plus en général dans ce vide-grenier de la Couarde-sur-Mer?
De tout pour faire plaisir à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, les vêtements sont à la mode. Voilà, les gens vendent leurs vêtements, mais on peut retrouver des jouets, des instruments de musique.
Il y a des pépites à trouver encore?
Certainement, il y a toujours des pépites dans les vide-greniers. Il y a toujours des pépites.
Je crois que vous êtes aussi une passionnée des brocantes. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, personnellement, en allant chiner?
L'ambiance, je chine. Après, on troque un petit peu, forcément, hein, on essaye d'avoir le meilleur prix. Mais voilà, ça se fait pas toujours. Et puis, tout le monde est de bonne humeur ce jour-là quand même.
Il y a le vide-grenier dans la rue. Il y a aussi les vides-maisons. C'est un phénomène où on vide les maisons. Donc, ça se passe à domicile. C'est une pratique répandue sur l'île de Ré?
Alors, c'est répandu maintenant, oui, tout à fait. Et en fait, ça s'est fait pendant le Covid, comme on n'avait plus le droit d'organiser de vide-grenier. voilà, dans les rues, on s'est dit pourquoi pas faire directement chez les particuliers des vides garages, des vides maisons ou des vides jardins. Donc tout le monde s'est mis à ouvrir son jardin, sa maison, son garage, et comme ça on a pu passer des bons moments.
Eh bien, merci de ce premier témoignage, Brigitte Réton, trésorière de l'association La Couarde en fête sur l'île de Ré. Nous partons à présent dans la Nièvre, dans le Morvan précisément, à Saint-Honoré-les-Bains, 700 habitants. La commune organise 7 à 8 vides-greniers par an et le dernier en date a eu lieu ce mercredi. Reportage de Guy Vanctil.
Vous, c'est Marco, c'est ça ?
Oui, enchanté.
Vous, vous êtes l'organisateur des brocantes de Saint-Honoré-les-Bains.
Voilà. Ça crée de l'animation, ça amène du monde. Oh, ben, des beaux bibelots, des trucs anciens, des pièces de monnaie aussi. Un peu de tout, quoi. Des capsules de champagne. Oui, de collection. Il y en a qui s'en foutent de ça. Hein. Puis les brocantes, c'est fait pour discuter. On discute toujours sur une brocante.
10 cartes à jouer, 1 euro le paquet. Ils sont neufs.
Moi, je faisais comme ça, c'est tout, pour améliorer les fins de mois. Quoi.
Les gobelets, 1 euro.
Et merci bien. Bonjour,
madame. Bonjour, monsieur. Marie-Claire.
Marie-Claire. Et je peux vous demander votre âge sans indiscrétion ?
Oh oui, 78 ans. Je suis vieille. Hein.
Mais vous regardiez les couteaux, là, les gros couteaux.
Oui, parce que ça me rappelle mon père.
Ah bon ?
Mais oui, tu as des cochons. J'en ai encore chez moi, d'ailleurs. Des comme ça, mais c'était ça. Hein.
Et ça, vous aimez bien ?
Oh, j'adore. Je revois mon enfance dans les brocantes. Je suis nostalgique, moi. J'aime bien tout ce qui est ancien. Les grosses marmites, les couteaux, ça me rappelle ma jeunesse. Ah, moi, j'aime ça. Ça m'aide à vivre.
Adèle, tu touches pas à tout, hein. Il y a des choses fragiles.
Là, il y a des enfants qui sont en extase devant un stand qui vend que des jouets.
Oui, surtout les dragons.
Combien le dragon ?
3 euros le dragon, c'est ça ?
Oui.
Et vous avez déjà acheté pas mal de trucs,
oui,
mine de rien.
Oui, livres et jouets, déjà.
Et ça a l'avantage d'être moins cher.
Ah, beaucoup moins cher, oui. Bah, à la base, oui, on venait surtout pour ça, quand on a commencé les vides-greniers, pour s'habiller.
On verra tout à l'heure en venant.
On n'achète pas neuf du tout, que vides-greniers. Ouais. Donc nous, c'est que seconde main. Et avec tout ce qu'il y a dans les armoires qui n'ont jamais été portées partout, c'est quand même dommage d'en racheter.
Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire.
Oui, c'est ça, ça reste là, dans le coin.
et puis aussi, c'est par rapport à un modèle consumériste. Il faut toujours avoir le dernier modèle, le dernier ceci, le dernier cela, et puis là, c'est que des vieilleries.
Alors moi, j'ai une fille qui est au collège et qui n'est pas du tout là-dedans. Et oui, même ça peut la choquer d'entendre les copines parler de leurs vêtements et du prix que ça peut valoir en magasin, parce qu'elle n'avait pas notion de ça.
Oui, parce qu'il y en a une qui avait acheté une veste à 30 euros au magasin et c'est beaucoup, beaucoup trop. Ça sert à rien.
Et là, du coup, parce que t'as... Si, tes baskets, elles sont neuves.
Non, vintage, tout, absolument tout. C'est vide grenier ou vintage.
Et ça t'embête des fois, ça, ou pas ?
Non.
T'es pas une victime de la fast fashion ?
Non.
Bonjour, Jean-Marie.
Jean-Marie.
Je suis clécadiste. Je collectionne des jetons de caddie en métal.
Comment on appelle ça ? Clécadiste ?
Un clé, une clé. Cadiste, le caddie. Clécadiste.
Bah, je connaissais pas ça.
Bah voilà, oui. Hein. Je vous avais pas rien sur vous.
Non, désolé.
Voilà, c'est ça, j'en ai quand même.
Là, je vois, il y a écrit PMU, là, il y a écrit Groupama, là, il y a écrit.
J'en ai 14 854 au dernier recensement.
14 000
Ouais, 14 000, c'est pas beaucoup. Mais je prends uniquement en métal. Hein.
Et c'est, vous avez tout mis ça sous vitrine, sous présentoir.
Et ça, c'est une partie. Hein.
Et vous avez fait des amis clécadistes, comme ça, avec qui vous échangez ou...
Bah,
ou non, c'est votre truc, c'est un plaisir solitaire.
Non, j'ai rencontré le deuxième plus grand, qui en a 34 000. Mais il y a encore un plus grand, soi-disant un Parisien, qu'il en a plus que nous.
Il en a combien ?
Un peu plus de 50 000, mais après voilà. Lui, il les accroche partout. Il les a tous accrochés dans les WC, dans le salon.
Et là, c'est un truc de fou, les collectionneurs. La collectionnite.
Ouais, puis on recherche toujours la pièce rare. Hein.
Bon, bah bonne brocante.
Ouais, elles sont toujours bonnes.
Alors, moi, je m'appelle Josée. J'essaye de vider la maison, tout doucement.
Il y a des boutons.
Ah ben, des boutons toutes sortes, vous voyez, hein, c'est tout un panache.
Ça, des aiguilles à tricoter.
Ah ben de tout.
Des verres, des gobelets en plastique.
Des gobelets en plastique, de tout.
Et ça part ça ?
Bien sûr.
Le gobelet Crédit Agricole de Maine-et-Loire ?
Oui, 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 oui. C'est pour me faire un plus, de façon à vendre un petit peu et avoir le contact. C'est moi, c'est le contact des gens. Puis ce qu'il y a une chose, c'est une passion. Attention, hein.
Madame.
Nicole.
Nicole, vous avez vu des choses qui vous intéressaient, vous ?
Oui, et puis je suis collectionneuse en plus, alors j'accumule.
Vous êtes collectionneuse de quoi ?
La vaisselle, la broderie, cartes postales, images de communion.
Voilà, bien, super.
Quoi. Enfin, un peu ce qui tient le moins de place.
Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il faut chiner.
Le problème, c'est que je rachète et je vends pas.
Vous empilez ?
Moi, je pourrais tenir un stand aussi.
Avec tout ce que vous avez ?
Oui, voilà, exactement. Ouais.
Il faut venir avec nous.
Oui,
et ben, vous venez, vous vous installez, au besoin, on vous vend vos affaires. Mieux que ça.
Ah, ben d'accord.
Regardez, il y a une place vide en face.
Oui, j'aurais toute la journée pour bavarder.
Et ben justement. Vous voyez, c'est tellement bien qu'on vient le mois prochain. Vous n'avez qu'à voir.
Et ben, tant mieux pour Saint-Honoré.
Et ben, venez, mettez-vous en face de chez nous, là. Et on vous garde la place en face. Le mois prochain, on vous trouve en face ?
On ne sait jamais.
On va faire comme ça, hein.
Ok, ben bonne continuation.
Oui. Merci, au revoir.
Au revoir. Merci, au revoir.
Et on dit bonne continuation avec beaucoup de bienveillance à Saint-Honoré-les-Bains, c'est dans la Nièvre. Reportage signé Guy Vanctil. Et bonsoir Lorraine Kiefer.
Bonsoir.
Vous êtes décoratrice d'intérieur, influenceuse dans le domaine des brocantes et vos conseils déco sur Instagram notamment sont très suivis pour rénover de vieux meubles, suivis je crois par 32 000 personnes si
c'est
j'ai regardé
exact.
Récemment. J'aurais tendance à penser que ce sont des jeunes en majorité. Quel profil ont vos followers ?
Alors c'est assez rigolo parce que j'ai de tout. Je vais avoir des jeunes plutôt à partir de 25 ans et ça va jusque 80 ans. J'ai des mamies qui sont complètement accros, donc c'est plutôt chouette. Mais j'ai plutôt des femmes quand même.
Ah, plutôt des femmes, et pourquoi donc ?
Peut-être parce que la déco touche plus les femmes, sûrement.
Pour trouver la déco d'intérieur de seconde main, avant de la rénover, vous allez chiner où ?
Alors moi aussi, pareil, je chine partout. J'aime quand même beaucoup aller en province, parce qu'en général, en province, c'est là qu'on va trouver des pépites, des meubles qui ont été dans un grenier pendant longtemps. Donc en général, j'essaie de m'éloigner le plus possible de la ville.
Et est-ce qu'on peut encore trouver des pépites, hein ? Je parlais dans le préambule de tous ces jouets achetés dans l'année, de ces vêtements et vêtements pour bébés. On trouve encore vraiment des pépites aujourd'hui ou plus ?
On trouve toujours des trésors, mais il faut quand même savoir bien chercher.
On cherche toujours la pièce rare, hein, c'est ce que disait un des protagonistes du reportage de Guy Vanctil. Pour vous, la pièce rare, c'est quoi ?
Alors moi, j'adore les meubles en bois. Les meubles en bois avec une certaine patine qui ont été peints il y a quelques dizaines d'années. Et cette peinture qui est craquelée avec des petites taches où elle est enlevée à certains endroits où le bois apparaît. J'aime beaucoup ce type de meubles de ferme qui ont vraiment un très beau charme et qui apportent beaucoup d'authenticité dans une décoration.
Et quand vous rénovez un vieux meuble, vous en faites quoi ensuite ?
Ensuite, je le revends ou je le garde pour chez moi, tout simplement.
Et vous cherchez indifféremment, soit dans des brocantes professionnelles, donc, ou en vide-grenier, donc amateur ?
Moi, je cherche dans les deux, effectivement, parce que c'est assez complémentaire. Alors,
pas la même bourse de prix, hein ?
Non. Alors, dans les déballages marchands, donc des déballages professionnels, en général, la gamme de prix est plus élevée, mais on peut faire acheter, voilà, pas mal de marchandises, alors que lorsque l'on va dans des brocantes de particuliers, là, on peut trouver de vraies pépites à moindre coût.
Et la négociation, ça fait partie du jeu ?
Bien sûr, ça fait partie du plaisir. S'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'adrénaline. Moi, ce que j'adore, c'est gratter quelques euros rien que pour avoir cette petite... la dopamine d'avoir réussi à négocier. C'est
en
plutôt chouette.
Grenier, c'est peut-être moins facile chez les brocanteurs, si ?
Ça dépend chez les brocanteurs. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut prendre plusieurs meubles et donc obligatoirement ils nous font une petite réduction. Effectivement, chez les particuliers, c'est quand même en général beaucoup plus abordable.
Je lisais que vous avez pour ambition de dépoussiérer la brocante. Ça veut dire quoi, dépoussiérer la brocante ?
Dépoussiérer la brocante, c'est de donner envie aux jeunes et aux moins jeunes d'aller chiner, d'aller trouver des beaux meubles de bonne qualité pour pouvoir redécorer ou meubler son intérieur, parce qu'on trouve vraiment de très belles choses en brocante.
Le secret, je pense au vide-grenier, c'est moins parlant en brocante, c'est d'aller au cul du camion, comme disent les professionnels, hein,
oui,
c'est
exactement.
Se lever très tôt,
oui.
Et là encore on peut faire de bonnes affaires. Expliquez-nous ce que ça veut dire aller au cul du camion.
Oui, alors en fait si on veut faire de bonnes affaires, il y a deux règles. Soit on vient très tôt, c'est-à-dire au cul du camion, on arrive à 5 heures du matin pour pouvoir voir le brocanteur qui déballe son camion. Donc là, on peut directement voir les petites pépites. Ou alors, si on est un lève-tard, on va venir très tard. Et très tard, donc vers 16h, 17h, et là c'est super chouette parce que les brocanteurs qui sont venus avec tous leurs meubles, en général, ils ont envie de repartir le camion vide, donc ils peuvent faire de super prix.
Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs le succès en ce moment de ce marché de la seconde main ?
Alors je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Le premier, je pense que c'est vraiment tout ce qui va être autour de l'économie. C'est vrai qu'en brocante, ou même brocante en ligne, sur Le Bon Coin, etc., on a des prix vraiment très abordable. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est autour de l'esthétique. C'est quand même très joli, les meubles de brocante. Ça revient à la mode. Les réseaux sociaux, je pense, n'y sont pas pour rien, parce qu'on voit beaucoup de comptes qui rénovent des meubles, qui donnent des petits tutos pour redonner vie à des anciens meubles, que ce soit du très vieux avec des meubles en bois de mamie, ou alors des meubles Ikea. Donc c'est assez chouette. Je crois que c'est vraiment à la mode de faire du neuf avec du vieux.
Et qu'est-ce qui est à la mode en particulier en ce moment ? On parle beaucoup du design des années 70.
Oui, effectivement, le orange, le Space Age qui revient beaucoup. Alors moi, ce que je vois énormément en ce moment, c'est le chrome, donc ce métal qui est argenté. J'adore d'ailleurs cette matière parce qu'elle permet de moderniser très facilement un intérieur. Elle se marie avec tout, notamment le bois, le velours, enfin voilà. Tout ce que l'on veut, ça se marie. Et on a également toute la vaisselle de mamie. Vous savez,
c'est pas has-been, c'est la vaisselle de mamie.
Pas du tout. Ces jolies assiettes fleuries en terre de fer, de Sarreguemines, non, ça revient beaucoup à la mode, et puis on les accumule chez soi pour faire une petite déco. Sympa.
On parlait des années 70, les pieds tulipes, c'est coûte cher, enfin les tables, les chaises pieds tulipes, c'est cher en ce moment, ça.
Oui, c'est cher, c'est effectivement très, très à la mode, assez recherché.
Surtout quand c'est signé des Italiens.
La chaise ou l'ensemble de chez Knoll.
Ouais, de chez Knoll et Rosarinen pour le designer. Bien, merci beaucoup, Lorraine Kiefer.
Avec plaisir.
Décoratrice d'intérieur spécialisée donc dans la seconde main. Et pour vos conseils déco, eh bien, je renvoie à votre réseau Instagram, Lorraine K. Merci beaucoup et bon début de soirée. L'engouement des Français pour les vides-greniers, on continue d'en parler sur France Inter. Ce sera juste après cette chanson de Yamé sur Inter.
Ne prends pas la tête, je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans l'arène. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fume à perte de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? J'allume mes cordes, le chromie. Je voudrais chanter toute ma vie.
gueule, ça chou, 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 ma gueule, ça chou, 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 ma gueule, ça chou.
Il a été révélation masculine aux victoires de la musique 2025, également au Grand Prix SACEM, le rappeur Yamé. Il est de retour avec Shoot dans la playlist de France Inter. C'est le choix de Djoubaka. Vous écoutez Une semaine en France, réalisée par Juliette Gou, Frédéric Barrère à la rédaction en chef. Un grand merci à Joachim Taïeb et à Ryan Saïbi qui m'ont aidé à préparer cette émission.
France Inter, le 18-20.
On continue de s'intéresser à l'engouement des Français pour les vide-greniers, cette économie de la seconde main. Et bonsoir Pascal Lardelier.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex d'ici Bourgogne. Vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne. Vous avez publié en 2023 « Éloge de ce qui nous lie, l'étonnante modernité des rites ». Et puis plus récemment, un recueil de nouvelles préfacé par Philippe Delerme. Le livre a pour titre « Le temps des terrasses ». Alors, il existe, on va le rappeler peut-être pour commencer, toute une histoire de la brocante, depuis l'Antiquité jusqu'à nos puces actuelles. Le marché de la seconde main a toujours existé ?
Alors écoutez, d'autant que j'ai pu retrouver, effectivement, il y a toujours eu un espèce de marché parallèle qui faisait que, par exemple, dès le 15e siècle, à Lille, j'ai trouvé cette archive, eh bien, les domestiques avaient le droit, entre le coucher et le lever du soleil, de vendre les vêtements usagés des personnes qu'ils servaient. Voilà. Alors pour la petite histoire, les puces, ça vient de, à la base, on ne garantissait pas l'hygiène de ce qu'on vendait, la propreté de ce qu'on vendait, et on disait que les vêtements étaient vendus puces comprises. Voilà.
Donc mais aujourd'hui, quand on voit ce que ça coûte aux puces actuelles, ce sont des puces réputées.
Oui, mais comme vous le dites, effectivement, il y a tout un commerce de la débrouille, de seconde main, et l'économie circulaire, elle date de bien avant notre siècle, et c'est vrai qu'il y a effectivement des antécédents très lointains.
On va rappeler aussi quelques différences entre les brocantes et les vide-greniers. On emploie souvent le mot à tort et à travers. Nous ne sommes pas sur la même économie d'échelle, hein, selon que ce sont des brocantes ou des vide-greniers.
Alors en fait, effectivement, le vide-grenier, ce sont des objets usagés de faible valeur qui peuvent être vendus par des particuliers. Et effectivement, il y a toute une gradation fiscale en dessous de 5000 euros. En principe, ça passe. Et puis voilà, ce sont des objets de faible valeur, de la seconde main, des objets kitsch, des objets anciens, des objets qui parfois, on l'entendait dans les témoignages, ont dormi dans des armoires ou dans des greniers, c'est bien le cas de le dire, pendant des décennies. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'ère de l'obsolescence programmée, du jetable généralisé. On sait la polémique récente autour de cette marque chinoise qui vend des vêtements à 2 ou 5 euros que l'on met parfois une seule fois. Et bien là, effectivement, des objets inanimés qui, semble-t-il, avaient une âme, pour reprendre ce qu'en disait le poète, et bien ils trouvent une deuxième ou une troisième vie. Et puis on vient d'entendre, avec le témoignage de cette influenceuse, que parfois, et bien ça peut être furieusement fashion.
Effectivement, très à la mode. Bon. Vous, le sociologue, dites-nous ce qui pousse ces personnes à se lever parfois très tôt, y compris le dimanche, faire parfois des dizaines de kilomètres pour aller à cette pêche aux objets de seconde main.
Écoutez, moi je pense que le succès de ces vide-greniers, c'est un formidable pied de nez à l'ère du temps. Alors, on parlait d'amazonisation à plusieurs reprises, je pourrais y rajouter l'ubérisation, et puis la numérisation généralisée de l'économie, l'accélération de nos vies, et puis des relations qui, dans les grandes villes, qui sont des jardins de solitude, sont au mieux indifférentes, au pire méfiantes. Et puis, c'est vrai que le vide-grenier, eh bien, c'est une interstice où on va vivre tout le contraire de ça. du bon usage de la lenteur. On va prendre le temps. On ne passe pas 20 minutes ou un quart d'heure dans un vide-grenier. On l'a entendu aussi. Mmh. On prend la journée, on prend l'après-midi en famille. Alors, il y a donc la lenteur. On change de temporalité. Ça, c'est bien. Et puis, il y a la présence aux autres. Hein, c'est vrai que l'autre n'est plus derrière un écran, mais il est présent. On va discuter. On va parfois parler une demi-heure autour d'un album Panini Coupe du Monde 78 ou d'une vieille machine à coudre ou que sais-je encore. Et donc, c'est vrai que c'est l'éloge des liens faibles, en fait. Et puis, un commerce des émotions, on l'a entendu aussi. Alors, bien évidemment, beaucoup de gens, les témoignages le disaient aussi, y vont parce qu'on trouve des choses d'excellente facture, d'excellente qualité, pour des prix extrêmement bas. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement des relations paisibles, des relations apaisées. Puis j'y reviens, une économie, un commerce des émotions. Un commerce des émotions.
Et vous parliez à l'instant des liens faibles, on ne va pas relire l'américain Granovetter, mais ça va à contre-courant de la distanciation sociale, c'est ça le ce qui marche aussi dans les vides-greniers.
Je pense que c'est effectivement, on est, comme le dit un titre célèbre, on est ensemble, c'est tout. Voilà, on passe un agréable moment à discuter, on vient de l'entendre aussi, il faut l'adrénaline du marchandage, sinon, ça va pas. Et donc, ce sont des relations paisibles, des relations qui sont légères, mais qui réinventent le lien social, me semble-t-il, sous d'autres modalités, où la méfiance, où la distance, où l'indifférence sont suspendues, et puis, on va être dans un rapport beaucoup plus incarné. Alors, de même, il y a la sérendipité, vous savez, ce principe qui fait qu'on va trouver des choses qu'on ne cherchait pas vraiment. Et c'est vrai qu'en ligne, on a le monde au doigt et à l'œil. Quand on fait ses courses sur un site en ligne, on sait exactement ce qu'on veut, la recherche est balistique. Et là, on y va au petit bonheur la chance, comme le dit l'expression. Et puis, parfois, on va trouver une pépite que l'on espérait secrètement, mais dont on avait oublié qu'elle puisse exister. Alors, ce sont des confiseries de la mémoire, en quelque sorte. On l'entendait avec cette dame qui a trouvé le couteau que son papa utilisait. Et puis, c'est très proustien, finalement. Ce sont des petits moments interstitiels durant lesquels, on va se replonger dans une France, dans une enfance nostalgique. Et c'est vrai que je crois que le succès des vides-greniers, par-delà le côté économie, bien évidemment, le côté économie circulaire, etc., je crois qu'il réside aussi là-dedans. Finalement, le lien prévaut sur le gain.
Je retiens votre formule, les vides-greniers sont les confiseries de la mémoire, on n'est pas loin effectivement de Proust. Il y a aussi l'importance du regard chez le chineur, on est déjà dans la communication non-verbale.
Oui, on regarde les objets et puis parfois on a repéré un objet, on le veut absolument, mais on ne va pas d'abord le prendre en main parce qu'on se dit que si on le touche en deuxième ou en troisième, on aura peut-être un meilleur prix qu'en montrant tout de suite que c'est celui que l'on veut absolument. Voilà. Et puis on se jauge, vous savez, le vendeur, il est avec son petit café dans son gobelet, il regarde les gens, il essaye d'attirer l'attention, puis hop, on a capté le regard et là on va commencer à discuter. Donc effectivement, il y a tout un jeu de regard sur les objets entre les gens, qui est assez touchant.
Ouais. Pascal Lardelier, vous restez avec nous, j'ai encore une ou deux questions à vous poser. Le temps de me tourner vers Yaël Gauze et votre prisme politique, comme chaque vendredi, Yaël, on va voir avec vous que les politiques, ils ont pris goût, eux aussi, aux brocantes, aux vides-greniers. C'est l'endroit idéal pour aller cultiver et même garder le contact avec les électeurs.
Absolument, Eric. Et parmi les missions des collaborateurs parlementaires, de plus en plus, il y a celle-là, mettre à jour l'agenda des marchés aux puces et autres foires à tout, c'est comme ça qu'on dit en Normandie, mais aussi dans l'Aisne, où le député LR Julien Dive se fait un devoir d'aller chiner et un plaisir aussi, lui qui est tombé dedans quand il était tout petit.
Mon grand-père était antiquaire à la retraite et je suis un peu né dedans. J'ai mes premières brocantes, j'ai dû les faire à 12-13 ans peut-être. Les gens parfois sont surpris. Tiens, monsieur le député, qu'est-ce que vous êtes là? Puis on enclenche la discussion. On va pas passer 3 heures à discuter d'une problématique ou d'un dossier. Par contre, on va prendre contact et derrière, on reprend rendez-vous et on approfondit la question.
Vous avez compris, prise de contact dans le vide-grenier pour des rendez-vous plus poussés ensuite en permanence. Cette chorégraphie, les 143 députés RN l'ont parfaitement répété et intégré, comme le PS des années Mitterrand ou le RPR des années Chirac. Être visible là où certains élus viennent moins souvent. Caroline Parmentier est députée RN du Pas-de-Calais et elle pense que c'est ce qui a fait la différence, cette visibilité, avec sa prédécesseure du Modem.
Oui, il y a les élus qui sont dans les inaugurations, qui coupent des rubans, dans les commémorations. Et puis nous, nous sommes dans les vide-greniers, dans les marchés aux puces, beaucoup moins dans les cérémonies en gants blancs, je dois dire.
Se montrer à tout prix, offrir des stylos au passage avec son nom dessus, un travail de fourmi pour quadriller le territoire, comme le Parti communiste le faisait dans ses grandes années. Le député LR Julien Dive n'est pas dupe de ce petit manège terriblement efficace.
Il regarde ce qu'on fait et puis donc il colle. En fait, c'est la stratégie du copie-colle. Par contre, j'invite beaucoup de collègues qui ne le font pas à le faire, hein, parce que c'est important. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas juste de faire du prosélytisme. C'est important en tant qu'élu, dans une époque où les Français ont le sentiment d'être éloignés de leurs représentants, de nouer du contact sur ce genre d'événement.
Voilà, se montrer sur les vide-greniers pour un élu, Yael, est-ce que c'est finalement si différent du tractage sur les marchés ?
Alors, je pensais pas, mais en fait, si c'est différent. Parce que dans les vide-greniers, on prend le temps, on l'entendait, il n'y a pas la pression de faire son panier pour le repas de midi. Et c'est aussi avoir accès à une France qui galère, parfois à découvert le 15 du mois. C'est là que la députée RN Caroline Parmentier met son énergie, intérêt bien compris.
Je ne vois pas du tout la même catégorie de population sur le marché de Béthune, qui est une ville assez bourgeoise, 25 000 habitants quand même, sous préfecture, etc., que sur le marché aux puces de Choc, où là, je rencontre 80% de mes électeurs. Or, le but est de ratisser nos zones de force aussi, vous comprenez ?
Choc, c'est C-H-O-C-Q-E-S, 2800 habitants, petite commune à 6 km à l'ouest de Béthune. Les zones de force, vous avez entendu ? Comme le dit un sous-préfet sous couvert d'anonymat dans un article passionnant du Monde que signe Luc Bronner, le RN s'incruste là où il y a du vide, il gagne là où les autres ont disparu. Et dans le Pas-de-Calais, Caroline Parmentier reconnaît aussi consulter systématiquement les avis mortuaires du département pour envoyer des lettres aux familles des défunts, idem pour les naissances, pour les mariages. Le député devient la relation de ceux qui n'en ont pas.
Et donc le vide-grenier, c'est aussi un lieu où le politique s'affiche et il se met même en scène.
Assez flagrant, faire de la politique nationale en se mettant dans le décor ultra-local. J'ai deux exemples à vous soumettre. Braderie Lille, septembre 2022, réponse à distance de Jean-Luc Mélenchon à Elisabeth Borne qui accuse les insoumis de semer le chaos.
Borne qui dit les insoumis veulent le chaos.
Et puis autre foire, celle de Châlons-en-Champagne, le 7 septembre dernier, là c'est Jordan Bardella qui met la pression sur le tout nouveau Premier ministre à l'époque, Michel Barnier.
Je crois qu'à compter de ce jour, M. Barnier est un Premier ministre sous surveillance d'un parti politique qui est désormais incontournable dans le jeu démocratique, le Rassemblement National.
Jusqu'au jour, Eric, où le politique finit lui aussi en relique, en objet de brocante, nostalgie d'une époque révolue. Il y a des affaires à faire en ce moment à Brive-la-Gaillarde, à la boutique Ici, c'est la Corrèze. Mug, t-shirt, affiche à l'effigie de Jacques Chirac, 30 ans après avoir décroché l'Élysée.
Merci Yael Gauze. Pascal Lardelier, professeur, je le rappelle, à l'université de Bourgogne. J'ai peut-être été un peu influencé par le feuilleton Louis Labrocante sur la 3, mais c'est aussi une économie qui a flirté parfois avec la limite de la légalité, non ?
Alors ça, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne suis pas fiscaliste ni économiste, mais oui, c'est vrai que... On voit dans les vide-greniers qu'il y a parfois de petits arrangements. Bon, alors après, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de vendre quand même, hein. Notamment des armes et des animaux. Oui. Hein, donc, et là-dessus, la loi est intangible et elle a raison. Mais pour revenir à ce qui se disait à l'instant, alors déjà, je pense que la politique ne se fait pas seulement sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'infos en continu. C'est presque rassurant. Alors après, à entendre le témoignage qu'on vient d'entendre, il faut savoir où s'arrête le pragmatisme et où commence le cynisme, bien évidemment. Mais on va voir les électeurs. Eh bien, là, il se trouve. Et c'est vrai que le vide-grenier, c'est une temporalité qui donne le temps de discuter, de sonder les gens, etc. Bon, effectivement, c'est très pragmatique, vu comme ça, bien sûr.
Merci beaucoup de toutes ces explications. Je retiendrai donc les vide-greniers, confiserie de la mémoire et évidemment cet éloge de la lenteur. Merci beaucoup, Pascal Lardelier. Merci. Toutes ces précisions autour de la sociologie des vide-greniers et merci beaucoup à Ici Bourgogne qui a permis cette liaison à distance. Merci à vous et bonne soirée. Pascal Lardelier signale aussi votre recueil de nouvelles intitulé Le temps des terrasses, préface de Philippe Delerme, c'est paru l'an dernier chez HD Littérature. Et puis cet éloge de ce qui nous lie, l'étonnante modernité des rites, c'est paru en 2023 aux éditions de l'Aube. Vous écoutez Une semaine en France, à suivre l'actualité en région.
I'm at my love by the gasworks wall. the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town. Drifting across the moon, cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. The smoky wind. Dirty old town. Dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down.
Dirty Old Town, The Pogues en 1985. La suite d'Une semaine en France. À la technique ce soir, Gilles Gaillard, Ronan Mahé et Philippe Duclos.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
L'actualité d'ici et d'ailleurs à présent. Nous sommes en ligne avec les journalistes des radios ici Creuse, ici Cotentin, ici Hérault, Sophie Peretti, Juliette Lemeunier et Tiphaine Morin. Bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir.
À Guéret, Sophie Peretti, la police milite pour l'installation de caméras de vidéoprotection.
Oui, c'est un souhait de la toute nouvelle commissaire qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un mois. Véronique Jacob plaide pour la mise en place de caméras en centre-ville. L'idée, c'est bien sûr de faciliter le travail de la police face au trafic de drogue et aux incivilités en tout genre. Alors bien sûr, Guéret n'est pas Marseille, mais il y a ici comme ailleurs des dégradations, des tags, des rétroviseurs arrachés et parfois des voitures qui brûlent. Et puis aussi des points de deal ou d'alcoolisme sur des parkings ou encore près des squares. Le référent sûreté du commissariat en charge du dossier a mené un audit sur la ville. Il estime que 20 à 30 caméras seraient nécessaires pour couvrir le centre et les entrées et sorties de Guéret. Reste évidemment le nerf de la guerre, l'argent. Il faut compter entre 300 à 700 euros par caméra, selon le type et la qualité de l'appareil.
Et cette vidéosurveillance, vidéoprotection du côté de la mairie, Sophie, on en pense quoi ?
Eh bien, la mairie de Guéret est plutôt favorable à l'installation de nouvelles caméras, mais elle précise que ce ne sera pas pour cette année. Au mieux, en 2026, il faut en effet le temps de monter des dossiers et surtout d'obtenir des subventions pour espérer diminuer la facture de 40 à 50%.
De la Creuse, nous partons en Normandie, Juliette Lemeunier, dans les marais du Cotentin en particulier. Les cigognes seraient en surpopulation.
Voilà, dans les années 70, on comptait quelques couples seulement de cigognes blanches. Aujourd'hui, on en recense pas moins de 400 couples, ce qui fait de la Manche une vraie région à cigognes. La cigogne est un animal protégé, au bord de l'extinction, même dans les années 70. Donc, dans cette surpopulation, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si les raisons pour lesquelles elles ont élu domicile là ne sont pas vraiment réjouissantes. Ce qui les attire, c'est la présence de deux centres d'enfouissement d'épuisement de déchets alimentaires à proximité des marais. Les cigognes y trouvent tout ce dont elles ont besoin pour se nourrir en hiver. En été, elles reviennent à une alimentation plus saine, insectes, criquets, sauterelles. Donc elles ont tout ce qu'il faut sur place et aujourd'hui, seules 25% d'entre elles migrent en hiver. Elles sont devenues complètement sédentaires.
Et la présence à l'année de ces cigognes, est-ce que ça a des conséquences sur l'écosystème local ?
Alors oui, mais dans un sens positif, la cigogne raffole des écrevisses de Louisiane. C'est une espèce invasive introduite en France dans les années 80. Elle en mange en grande quantité, ce qui permet de maintenir la population de ces écrevisses nuisibles stable. Quant aux grenouilles, la cigogne en mange, mais pas suffisamment pour menacer les amphibiens.
De la Normandie jusqu'à l'Hérault, Tiphaine Morin. Il est question avec vous d'un tambourin.
Et pas de l'instrument de musique, mais du sport pratiqué par 4500 licenciés. Un sport très local, puisque 85% d'entre eux résident dans l'Hérault. Le jeu de balle au tambourin se rapproche du tennis, mais sans filet. À 5 contre 5, la raquette ressemble furieusement à l'instrument, mais évidemment sans les petites cymbales. Et si je vous parle de ce sport aujourd'hui, c'est parce que de plus en plus de femmes pratiquent le jeu du tambourin. La Fédération nationale, dont le siège est à Gignac, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier, vient même d'élire sa première présidente tombée dedans quand elle était petite.
Et son élection n'est pas anecdotique donc. Hein.
Et non, car les femmes ont commencé à jouer seulement dans les années 80 et l'histoire raconte que le premier tambourin a été fabriqué au bord de l'étang de Thau à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, le jeu du tambourin a dépassé les frontières de l'Hérault, on y joue même en Picardie et on recense 42 clubs en France. Et si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il existe une tambouritech, ça existe dans le berceau du tambourin, bien sûr, à Gignac.
Eh bien, merci à toutes les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. À suivre, le journal de 19h de Corinne Audouin et puis à 19h20, pour le téléphone sonne, nous irons à bicyclette. On va vous poser la question, quel cycliste êtes-vous ? La France a connu un engouement pour le vélo porté par l'après-Covid, même si la pratique semble se stabiliser. Nous verrons dans le téléphone sonne à quel point le vélo est plébiscité. On reviendra évidemment sur la difficile cohabitation entre les voitures et le vélo, malgré les efforts faits par les communes pour développer les pistes cyclables. Les cyclistes sont-ils d'ailleurs exempts de tout reproche, parfois, dans leur façon de se déplacer ? Eh bien, on posera la question à nos invités. On rappellera en même temps qu'un Français sur deux ne fait jamais de vélo. J'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000.